Alors nous allons, si vous voulez, prendre une autre voie de connaissance aujourd'hui, qui est le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Hier, nous avons suivi quatre voies naturelles qui nous ont permis de nous approcher du mystère de la présence sacrée de Dieu, particulièrement dans sa création. Et nous avons vu le bien fondé de ces voies de connaissance en même temps que leurs limites. Elles nous apportent effectivement une connaissance par cette immensité, par cette merveilleuse création, et en même temps le visage même du Seigneur que nous cherchons n'est pas apparent dans cet univers. Alors, pour aller plus loin, nous devons prendre une autre information qui fera une autre voie de connaissance, qui est la révélation de l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ, homme de Nazareth. Et cette voie va nous amener jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes, sans nous faire quitter en même temps le terrain des réalités extérieures, car la révélation s'est opérée dans l'histoire même de l'humanité concrètement sur cette terre. Nous aurons donc à réfléchir sur le mystère de l'incarnation et sur l'appropriation que nous en faisons nous-mêmes, chacun, dans notre vie. Mystère de l'incarnation. Eh bien, nous aimons beaucoup le prologue de Saint Jean et nous avons toujours puisé dans l'évangile de Jean, dans le prologue, nous avons toujours puisé le mystère de la Sainte Trinité. Dans cette parole, au commencement était le Verbe était tourné vers le Père en vis-à-vis du Père, et ce Verbe était Dieu. Alors, nous avons là une parole de révélation du Dieu Trinité. Le Père, le Verbe, il n'est pas apparent, il n'est pas dit le Saint-Esprit, mais le Père et le Fils sont vis-à-vis, et dans ce vis-à-vis est le lien du Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons, plusieurs mots, plusieurs appellations que nous trouvons dans la parole de Dieu pour qualifier ce mystère du Christ, Fils de Dieu. Le plus souvent, nous l'appelons le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous nommons Jésus, Fils de Dieu, avant tout, nous pensons à la relation que lui-même a avec le Père. C'est une relation du Père et du Fils. Le Père est Père parce qu'il a un Fils. Et de cette façon-ci, on va qualifier Jésus comme étant, quand il se qualifie lui-même, comme étant le Fils éternel du Père. Là, on ne parle pas de Verbe. Dans d'autres endroits, on va dire que il est l'image du Père. Il en est sa splendeur. Donc là, on a encore une autre façon de penser le mystère du Christ. Tout cela, il faut bien se rendre compte que ce sont des mots, des façons de pouvoir approcher un mystère qui nous dépasse, celui de la façon dont le Christ est né du Père avant tous les siècles, et comment il est en relation avec le Père. Quand il s'agit d'une relation, on va dire Jésus, le Fils unique du Père. Et si on veut aller peut-être un peu plus loin, si on veut, ou sous une autre façon, quand on prend le chemin de la révélation biblique, on apprend que c'est la parole. La parole. Et c'est ça, le mot verbe, c'est la parole. Puisque verbe veut dire, verbum veut dire la parole. Ou autrement en grec, c'est logos. Mais là, on a toujours cette même interprétation que Jésus est, que là, on a le verbe. Et ça nous ramène beaucoup dans une autre vision des choses. Un autre aspect encore, si on peut. Ce sont des aspects différents. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'un seul mot d'exprimer le mystère infini du Fils de Dieu lui-même, de la deuxième, on va dire, de la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est à ce moment-là qu'il est bon de penser plutôt à ce qu'on appelle la théologie trinitaire et de dire et donner d'autres appellations à chacune des personnes divines. Alors on parlera de la première personne, de la deuxième personne, de la troisième personne. Vous voyez, chaque fois, on déplace un peu comme le petit prince là, qui regardait le soleil, qui déplaçait sa chaise hein, pour avoir un autre moment, une autre vision de ce qu'il voyait. Hein. Et alors, nous avons des angles différents, donc avec automatiquement une autre compréhension, une autre approche. Quand on dit le Verbe s'est fait chair, on est plus renvoyé à l'éternité. On ne parle pas, c'est toujours le même Jésus, fils de Nazareth, mais alors on va parler comme Saint Jean, qui a médité à un autre niveau. Il va parler donc du Verbe de Dieu, de celui qui était dans l'éternité. Celui qui a créé, et c'est après, dans le prologue, qu'il va dire « le Verbe s'est fait chair ». Alors on a quand même une petite... une petite marge là, où d'un côté on a l'impression de contempler la Trinité dans sa... dans son inaccessibilité, dans son au-delà. Le Père qui donne l'être à son Fils, à la deuxième, alors on dirait la première personne de la Sainte Trinité, on va l'appeler Père. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, la révélation en Saint Jean, on apprend que Jésus parle du Père, de son Père, que la première personne de la Trinité est donc Père. Et toute la paternité du Père, c'est d'enfanter son Fils. La paternité, c'est d'avoir un Fils. Et la paternité, donc, du Père, c'est d'enfanter son Fils. Et le Fils exprime la paternité du Père. Ce qui se fait voir dans notre vie humaine, c'est que le Fils que vous engendrez, il est votre image, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il est. Comment sa vie, ce qu'il porte d'hérédité que vous l'avez transmis. Tandis que là, dans la Sainte Trinité, on apprend que le Fils est la splendeur du Père. Il est tout ce qu'a le Père est donné à son Fils. Et pourquoi le Père et moi, dit Jésus, nous sommes un. Tout ce qui est l'héritage du Père est donné au Fils. Enfin, il n'y a pas un héritage, on est dans de l'éternité, là. Donc, il n'y a pas de temps. Et pourtant, mystérieusement, on apprend que c'est le Père en tant qu'il est Père et qui donne naissance à son fils, a aussi une paternité qui s'exerce autrement par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui en même temps exerce sa paternité, sa puissance de se communiquer, de se donner, comme un père qui se donne infiniment. Et il va donc donner un autre qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, dans cette vision-là des choses, de la Sainte Trinité, il est bon de parler plutôt de la première personne, de la deuxième personne, de la troisième personne. Parce que, en parlant de la troisième personne, en grec, on appellera des hypostases. La première hypostase, la deuxième hypostase et la troisième hypostase. Et là, on est déjà, on ne va pas parler des relations immédiates qu'il y a entre ces trois hypostases. Alors, si on parle après des relations, on va, si on veut définir un peu davantage ce qu'est chacune de ces personnes, alors la théologie nous apprend qu'ils sont les uns les autres dans des relations. Le Père, immédiatement, est Père, et son Fils, c'est sa relation essentielle. S'il n'avait pas un Fils, il ne serait pas Père. S'il est Père, il a un Fils. Donc, les relations, on va appeler les relations trinitaires. Les relations qu'il y a entre le Père et le Fils sont faciles. La plus difficile, c'est la relation qu'il y a avec la troisième hypostase. Et nous savons que pour nous, la troisième hypostase, dans notre théologie occidentale, c'est de dire que tous les deux, le Père et le Fils, interviennent pour... c'est pas la naissance, c'est pour la procession du Saint-Esprit. Il a fallu trouver un mot pour exprimer comment on pouvait qualifier la relation qu'il y a avec le Père, Créateur, et puis la troisième personne et la troisième hypostase. Et alors, la première hypostase, c'est facile, on va parler d'un engendrement. On va dire que le Père engendre, à la façon humaine, ce mot engendrer, on le comprend bien, il engendre éternellement son Fils. Par contre, quand il s'agit du Saint-Esprit, il fait la même œuvre, mais on ne va pas mettre le même mot. Il y aurait une confusion. Alors on a mis un autre mot, qui est la procession. Mais en fait, il s'agit du même acte du Père éternel qui donne naissance à son Fils et au Saint-Esprit. Alors, il est donc le Père, il est la cause. Alors, souvent, le mot cause, on l'a souvent exprimé, mais la cause, c'est difficile, la cause. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il est avant les autres. Une cause, on sait très bien, moi je sais pas, quel exemple de cause, les choses les plus simples qui est causée, s'il y a un mouvement, s'il y a une cause pour un mouvement. Voilà. Alors, la cause est toujours antérieure à son effet. Alors, ça voudrait dire que le Père est antérieur aux deux autres créations, aux deux autres personnes, puisqu'il en est leur origine. Et là, il y a une première grande difficulté. On voit combien notre langage humain est très difficile. Alors, est-ce que le mot « cause » convient ? Ça voudrait... Enfin, en fait, ça ne convient pas, puisqu'on va apprendre d'un autre côté que les personnes, les trois personnes, sont éternelles. Et que chacune d'elles est Dieu. Alors, ce n'est pas comme un gâteau qu'on partage en trois, c'est que chacun a la totalité du gâteau. C'est-à-dire que chacun est absolument Dieu. Alors, le mot cause fait partie des difficultés qu'on peut avoir pour exprimer le mystère. Et il y a un autre mot qui semblerait meilleur. C'est le principe. Alors on préfère peut-être, enfin c'est mieux quand même, de parler du principe. Le Père est le principe du Fils et de l'Esprit. Vous voyez, le mot principe, ça redit encore quelque chose. C'est quelque chose qui est avant, quoi, que quand même, qui est une source. Alors on peut parler source. Mais la source, elle est toujours antérieure à l'écoulement de l'eau qui se produit. Donc on est toujours au niveau, nous, du temps. On ne peut pas sortir du temps. Alors comment?
Même quand on dit première personne, deuxième personne, troisième personne, ça laisse penser à une antériorité ou une forme de hiérarchie aussi.
Voilà. Alors ça a été tous les grands débats christologiques, les grands débats de la Sainte Trinité. Parce que pour arriver à dire que ce langage-là est impropre, on n'en a pas d'autre. Et en fait, on peut pas exprimer vraiment l'éternité. Et alors, on a refusé de penser qu'il y a une dérivation, si on veut. Or ça, c'était un peu la philosophie grecque qui faisait qu'il y avait un premier principe. Et puis ensuite, ça se dérivait, comme par exemple quand on avait vu on en a parlé des hiérarchies, hein, les trois hiérarchies angéliques. Eh bien, il y a eu cette vision que la première hiérarchie, qui recevait toutes les lumières, donnait ensuite à l'autre hiérarchie ce qu'elle recevait, et donc était moins grande que ce qu'elle recevait elle-même. La deuxième hiérarchie avait moins de lumière de la première, parce que la première recevait davantage pour donner la seconde, puis la seconde à la troisième. Là, on pourrait, et bien sûr, la question c'est alors, est-ce que vraiment la deuxième hypostase et la troisième hypostase sont vraiment complètement, totalement Dieu? Et nous l'affirmons. Alors il faut tenir cette évidence, il faut tenir cette conclusion là que effectivement chacune des personnes est éternellement Dieu.
Oui, je m'excuse si vous intervenez, moi je pourrais pas mettre le son sur le site parce que ça serait inaudible. Non mais je le dis franchement.
Oui, non mais là c'était là, ben là ouais, mais... Non mais là on n'intervient pas là.
Ben, si, parce que je ne le mettrai pas.
Encore pur en physique. Si on le partage, un morceau de cuivre. Si on le partage, c'est toujours un morceau de cuivre.
Oui. Eh, c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée. Et alors, pour... Donc, chacune, en fait, chaque hypostase est pleinement Dieu. Une autre question se pose. La génération, quand on dit, et on revient encore à cette première question, quand on dit que le Père donne naissance à son Fils par engendrement, ou donc à l'Esprit par procession, On est pour nous quand même dans du temps, on ne peut pas s'en sortir. Alors il faut admettre aussi que chacune de ces personnes, la Trinité ne s'est pas constituée. On aura la vision que ben, si le Père fait engendre, hein, et s'il fait ça, il y a une histoire. Il y a eu un moment où le Père semblait être tout seul, et puis il engendre son Fils, et puis après c'est dans notre vision humaine, on aboutit à ça, quoi. Il y a une histoire, comme l'histoire humaine où ben, vous vous rencontrez homme, femme, pour fonder une famille, et les enfants ben, viennent après, quoi. Et là, dans l'éternité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont co-éternels, et ils viennent tous ensemble, quand la Trinité a existé, elle a existé d'un seul coup. Elle n'a pas eu d'histoire qui a fait que Le père a travaillé pour engendrer, hein, et pour voilà. C'est un autre mystère vraiment inaccessible pour nous. D'éternité en éternité, Dieu a toujours été et sera toujours. Il a toujours été Sainte Trinité et il sera toujours Sainte Trinité. Ben vous savez, quand vous regardez ça paisiblement, peut-être pas là en ce moment, hein, mais quand vous portez cette vision-là des choses, vous la portez avec vous, et il y a un moment où vous êtes heureux. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Un moment heureux et pas déconcerté, mais de sentir un moment que Dieu, c'est comme si ça vous sortait de vous-même. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Et on a comme la sensation d'un Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il durera toujours. Et nous avons cette... À partir de ce moment-là, nous sentons la joie. Mais là, je ne sais pas, c'est indescriptible de penser que nous sommes, nous, maintenant, aussi dans ce mouvement trinitaire d'existence éternelle. Dieu nous a créés. Et leur vie, leur éternité va devenir aussi la nôtre. Pensez qu'on aura... Il n'y a pas de fin dans notre existence. Voilà ce qu'est la première grande joie et conclusion, si on veut, ou approche, que de ce mystère de la Sainte Trinité, depuis toujours à toujours, nous sommes nés dans le temps. Mais nous sommes nés à cette image, l'image qu'on a dit tout à l'heure, que le Père a transmis à son Fils et qu'ils sont dans la même, que le Fils est la splendeur, l'image parfaite du Père. Eh bien, il nous a communiqué quelque chose de lui-même, de cette image qui est en nous et qui nous constitue. Et cette image est éternelle. Et nous sommes appelés donc à entrer, à voir que cette vision que nous pouvons voir dans notre être, hein, d'un Dieu de toujours à toujours. Nous avons eu un commencement, mais nous n'aurons pas de fin. Voilà. Alors je crois que j'ai exprimé peut-être Alors, en créant, dans la Sainte Trinité, s'est passé quelque chose que nous ignorons, mais dont nous sommes le fruit, la réalité, c'est que le Père a décidé notre création. Or, comment l'a-t-il fait? Eh bien, il a engendré son Fils, quand?
Puisqu'il y a de toute éternité.
Voilà. On peut simplement dire, il a engendré le Fils. Ouais. On ne peut pas savoir quand. On est dans l'éternité. Mais alors, on a simplement, nous constatons simplement. Et nous le constatons grâce à la parole. Si nous n'avions pas la parole, on serait béat devant un spectacle fermé, quoi. Comme quand je regarde là en ce moment devant moi le ciel, tout ça, c'est fermé, tout ça. Et alors, quand a-t-il une question qu'on ne peut pas se poser? Mais nous savons que le Fils, un jour, est venu parmi nous. Il s'est déclaré le Fils du Père éternel. Alors, voyez les questions que ça va se poser. Comment ce homme de Nazareth peut-il se dire, lui qui est comme parmi nous, comment peut-il se dire venir d'une éternité inaccessible? Et pourtant, nous apprenons que cet homme de Nazareth, c'est de lui que nous allons recevoir la plénitude de toute cette révélation. Et alors, il nous dit qu'il a été envoyé par le Père. Et que il est, malgré tout, préexistant à la création du monde, puisque c'est lui qui l'a créé. Et il nous dit qu'il a créé le monde. Alors donc, il l'a créé dans un autre lieu d'existence. C'est-à-dire qu'il l'a créé au moment où il était dans l'éternité. Quand dans l'éternité, on ne sait pas, il a créé. Oui. On ne sait pas dans l'éternité quand est-ce qu'il a créé, mais de toute façon, nous apprenons qu'il a créé le monde. Donc, il est avant le monde. Et c'est lui-même qui nous le dit. Avant que le monde fût, je suis. Alors se pose pour nous une question. Nous devons simplement accepter la parole. Accepter quelque chose qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas mesurer, que nous ne pouvons pas contrôler. Et heureusement que nous avons la parole, et particulièrement la parole de Saint Jean, qui nous dit le Verbe, celui qui était donc la deuxième personne éternelle, s'est fait chair. Alors nous, on pourrait se poser des questions de ce genre, et c'est possible de se les poser. On peut se dire, mais comment ça se fait le Verbe qui est éternel? Quand est-ce qu'il était éternellement? Le Verbe fait chair. C'est non. Oui, on ne sait pas. Mais quand on lit, le prologue de Saint Jean, on apprend d'abord qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. On n'a pas l'impression que là, à ce moment-là, le Verbe est chair. On a simplement qu'il est une personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Saint Jean après continue à lui dire, et le Verbe s'est fait chair. Alors brusquement, on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose dans le Verbe. Est-ce que ce qui s'est passé était... Est-ce que avant que ça se passe, il y avait quelque chose? Il y avait une réalité avant ou il n'y en avait pas? Voilà encore des questions qui nous... On est complètement déconcerté. Est-ce qu'un jour, ce qui voudrait dire que... Est-ce qu'un jour, mais un jour qui n'existe pas, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, la Sainte Trinité, les trois personnes, s'est dit maintenant, on va... toi, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est-ce que tu veux t'augmenter de quelque chose qui va être en plus de toi? Ce sera toujours toi, mais ce sera encore quelque chose un peu nouveau par rapport à toi. Le Verbe s'est fait chair. Et ce plus, ça s'appelle Jésus de Nazareth. Alors est-ce que dans l'éternité, Dieu a créé un homme, il se l'est adjoint à lui-même, au Verbe, et alors les théologiens parlent d'un homme assumé, il s'est donné un homme assumé, et cet homme qui est assumé, c'est le Verbe qui aurait fait ça, il est le Verbe, il est resté le Verbe, et c'est comme un... Je ne sais pas si on avait des images, on pourrait se donner des images, de toute façon, on peut réfléchir, ça. Et si on fait des hérésies, c'est pas grave, parce que c'est de la réflexion, puis c'est tout, ça nous dépasse. Mais on peut penser alors que, comme une sorte de... un engrossement. Il s'est engrossé, le Verbe s'est engrossé lui-même d'un être humain qu'il a confectionné, et c'est Jésus de Nazareth. C'est un homme-Dieu, il s'est fait un homme-Dieu. Et cet homme-Dieu a ensuite créé tout l'univers. Et donc l'homme-Dieu est créateur, et nous-mêmes, nous sommes créés à l'image de cet homme, Dieu. Et cet homme, Dieu, a reçu du Père la plénitude. Et ça, la parole nous le dit souvent. Il a la plénitude de la divinité. Alors, nous lisons comme ça des textes. Je crois que quand on les lit avec un peu, enfin, disons, une vision comme ça des choses, on voit que, on apprend, ben, il est le premier-né de toute la création. Cet homme, Dieu, qui a été créé, qui a été fait par la Sainte Trinité, mais particulièrement qui a été fait dans le Verbe, il est resté le Verbe. Il est un homme, Dieu, premier de toute création. Et en lui, tout a été créé, au ciel et sur la terre. Il est l'absolu de toute la création. Alors, à nouveau, quand est-ce que cela s'est fait? Est-ce que ça s'est fait? Nous, on va dire, ben, il y a eu un moment donné où ça s'est fait. Est-ce que c'est fait? Ça s'est fait dans la Sainte Trinité, on ne sait pas quand. On ne peut pas savoir comment. C'est pourquoi Grégoire de Nazianze dit, ne regardez pas, là. Vous n'avez pas à regarder, à savoir, à chercher comment. Et puis en même temps, on a quand même une... Il veut dire que... Ça veut dire respecter. Alors il est certain que quand on dit cela, ben, on peut quand même, par l'intelligence, poser des questions, à condition que ça puisse rester orthodoxe. Et on voit que... Ben, depuis les origines, depuis le moment où les pères de l'Église et les autres se sont mis à réfléchir sur le mystère de ce Jésus de Nazareth qui se présentait comme un homme et qui se disait Dieu et qui, par sa résurrection, bouleverse toutes choses, envoie le Saint-Esprit et brusquement rentre dans l'humanité des informations que cette humanité n'avait jamais eues auparavant. Et tout ça, en relisant alors les informations d'avant, qui sont la première alliance, et avec les informations nouvelles apportées par ce mystère, cet événement du Seigneur, de Jésus, ça bouleverse tout. Il faut tout repenser, il faut tout recommencer à réfléchir. Et alors, à partir de ce moment-là, effectivement, l'Église va se poser des questions. On va se poser des questions. Et on va avoir des choses que moi, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'ils sont complètement des hérésies. Alors, il y a des courants. Alors, il va falloir essayer de voir mais comment on va résoudre le problème, quoi. Donc, on se réunit en concile. On réfléchit. Et puis, les conciles... On pose, par exemple, le concile le plus important, mettons, de Chalcédoine. On dit que que Jésus est une personne avec ses deux natures humaines et divines. Et puis il y en a qui vont l'accepter, puis d'autres qui ne vont pas l'accepter. Parce qu'il y en a certains qui ont une telle vision de Dieu qui vont dire, ben non, c'est pas possible qu'un homme puisse avoir une nature divine tout en étant homme. Alors, ça va faire un grand courant où on voudra voir dans Jésus uniquement dans l'événement, de voir simplement que la nature divine, mais on ne veut pas voir la nature humaine. On dira c'est pas réel, quoi. Cette nature humaine n'était pas réelle. En fait, c'était toujours la nature divine qui agissait dans le Christ quand il faisait des miracles, mais il n'y avait rien. Voilà. Donc, on n'a pas. Il va falloir tenir les deux choses trop difficiles à tenir ensemble, la nature humaine qui apparaît, puisque Jésus a une nature humaine très simple à tous les niveaux. Et puis, cette revendication qui apparaît aussi dans la vie de Jésus tout au long de l'Évangile, cette capacité de faire des miracles, et surtout sur le mont Tabor, de faire apparaître d'une certaine façon toute l'histoire avec Moïse, Élie et puis le Père, et puis au baptême, le Père qui introduit pour dire « Celui-ci, mon fils bien-aimé ». Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir contenir ensemble deux réalités. Est-ce que, comment ça va se faire comme ces deux, comme admettons deux roues crantées là, et puis qui marchent ensemble. Est-ce que ça marche ensemble? Comment ça marche, quoi? Alors c'est cette question-là qui a été la première question la plus importante que l'Église a dû se poser et a dû résoudre. Alors on va la regarder. Puisqu'on en est arrivé là. Les théologiens ont relevé 4 aspects de cette union. D'abord, c'est un premier acte de foi qu'il faut dire avant toute chose. Parce que vous pouvez mettre l'évangile entre les mains de beaucoup de personnes, et puis qu'ils vont lire, c'est très intéressant, ben, ils vont dire, ben, Bouddha a fait autant, ou un autre a fait autant, etc. Ça ne prouve pas que le Seigneur est Dieu. Bon. Donc, il faut d'abord une vision en lisant l'évangile, que nous sommes en train de lire le mystère d'un Jésus, fils de Dieu. Et ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un don de l'Esprit qui a permis, au fur et à mesure, de voir d'abord toute une première révélation qui le préparait pour aboutir à la foi pour nous quand on regarde. C'est pour ça... Quand je reçois des gens, maintenant, de plus en plus, je leur donne un évangile. Parce que je trouve qu'ils n'ont jamais lu l'évangile, ils ne savent pas du tout ce qu'est le Seigneur Jésus. Bon, me dit, bon, lisez l'évangile. Je ne sais pas comment ils l'ont, je sais pas comment ils vont le lire. Mais au moins, je me dis une chose, c'est que l'évangile a une force, et qu'en lisant l'évangile, il y a le Saint-Esprit. Et puis, ben, ça va travailler en eux. Si il trouve dans l'évangile même que, par exemple, la miséricorde du Père, ben c'est déjà quelque chose. Maintenant, comment ils arriveront à trouver dans l'évangile la divinité du Christ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, humainement, à mon avis, on ne peut pas. Maintenant, vous prenez l'évangile immédiatement pour vous, ben, c'est le Seigneur Jésus qui vous parle. Mais oui, mais regardez votre vie.
Ils le lisent comme une histoire.
Voilà. Mais nous, et il faut bien voir, mais ça, c'est une très grande grâce que nous avons. Et qui nous vient depuis notre baptême, qui nous vient depuis de tout ce que le Seigneur nous a donné, de pouvoir prier, de pouvoir des rencontres qu'on fait, de tout ce que vous avez lu, etc., etc. C'est tout cela qui est un capital extraordinaire en nous. Et on le voit, c'est quand on est avec des gens qui ne l'ont pas. On voit l'extrême des différences. On se dit, mais comment on peut transmettre quelque chose de ce genre? Donc la parole elle-même porte d'abord... c'est-à-dire ce mystère de Jésus que nous reconnaissons comme fils de Dieu, que nous reconnaissons comme homme et comme donc fils de Dieu. Alors, les théologiens vont travailler là-dessus, à partir de cette foi chrétienne. Alors, je trouve qu'ils ont fait un beau travail, parce que premièrement, ils vont dire qu'il y a 4 aspects, ils vont retourner 4 aspects. Peut-être qu'on pourrait prendre aussi les choses autrement. Enfin, par rapport à ça, nous l'avons souvent des conciles. Du concile, et particulièrement du concile de Chalcédoine, 1531. Et donc 4 aspects par lesquels on va essayer de comprendre comment une nature divine peut s'allier, peut être aussi présente dans un homme qui, en définition, est un homme, c'est-à-dire une personne. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la personne ? La personne, il y a toute une histoire hein, pour définir la personne. Mais prenons-la à un moment où beaucoup de choses sont résolues. On va dire que la personne, c'est une hypostase, c'est-à-dire elle est unique, elle a un fondement, elle a une hypostase, et elle a un centre éternel, profond en elle, qui fait son individualité, sa réalité définitive, éternelle, voilà. Alors, s'il n'y avait et en son sens, elle se distingue de tout ce qui existe, de tous les animaux qui n'ont pas cela. Les animaux ont bien effectivement une intelligence dans leur structure que le Seigneur leur a donnée, mais ils n'ont pas d'hypostase. Ils n'ont pas quelque chose qui est hypostatique, c'est-à-dire qui est l'image des hypostases divines, qui fait que la personne est éternelle. Nous avons une personne que Dieu a créée en nous et qui est éternelle. Alors, une question surgit immédiatement. Mais alors le Christ a-t-il une hypostase ? Eh bien non. Il n'en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il est, le Verbe. Et c'est le Verbe qui a une hypostase. Mais on dit qu'il est aussi homme. S'il était homme, il lui faudrait aussi une hypostase. Mm-hmm. Il n'en a pas. Alors, comment un être humain, voilà un des premiers, un grand mystère quand même du Christ, je me suis toujours émerveillé devant cette question. Comment résoudre cette question ? Alors, ben, tout simplement, les théologiens ont dit que c'était l'hypostase éternelle, celle donc de la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui en hypostasiait la personne du Christ, c'est-à-dire qu'elle lui donnait. Parce qu'en fait, Jésus est le Verbe fait chair. Donc le Verbe agit en lui pour faire de lui un être pleinement humain. Et entre autres, il ne lui donne pas une hypostase comme nous, mais il lui donne ce qui fait l'hypostase que nous avons, c'est-à-dire tout ce qui permet d'être ce que nous sommes nous-mêmes. Voilà une première chose, et on voit bien que Jésus, dans l'Évangile, on voit très bien qu'effectivement Jésus est un homme parfait, sauf le péché. Il ne peut pas être pécheur. Il ne peut absolument pas être pécheur. Mais il est le Verbe. Il est le Verbe pécheur. Et jamais, à aucun moment, on a pu convaincre, on a pu dire de lui qu'il était pécheur. Et c'est un blasphème. C'est de l'ordre du blasphème de dire ça. Alors après, on voit la passion, on voit tout ça, toutes ces conséquences-là, blasphématoires contre lui. Bon, ben ça, c'était encore deux choses qu'il fallait dire avant d'aborder les quatre aspects. Premièrement, donc on vient de le dire, premièrement que c'est une très grande grâce de pouvoir poser ce problème, cette question, parce que déjà, nous savons qu'il est le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils du Père. Nous lisons continuellement dans Saint Jean, le Père et moi, nous sommes un, etc., etc. Deuxièmement, qu'il est homme, pleinement homme, mais qu'il est comment on pourrait dire il dérive, ou il est, il ne dérive pas, mais il est le verbe fécheur. Alors, ces deux natures, il a donc deux natures, cette nature humaine et puis cette nature divine qui lui vient du verbe, de ce qu'il est. Alors, la première des choses, il fallait dire qu'elle n'était pas, qu'il y avait, c'était sans confusion. Alors ça, c'est important, la confusion. C'est-à-dire que quand on parle de confusion, ben on voit que toutes les choses sont mélangées dans les personnes, quand ils sont confuses, ils ne voient plus rien, quoi. Donc ces deux natures sont sans confusion. Alors il y en aura quatre. Alors, on les retrouvera à peu près, mais sous des angles un peu différents. Sans confusion, cela veut dire qu'elles sont dans un respect l'une de l'autre. Elles sont pas confuses, elles sont pas mélangées, si vous voulez, mais c'est pas encore, on verra le terme. Et donc elles sont sans confusion. Ça veut dire que chacune étant ce qu'elle est, la nature divine demeure la nature divine. Et la nature humaine va être encore la nature humaine. Il n'y aura pas une interprétation, une interpénétration de l'une comme ça et de l'autre, qu'on pourrait trouver par exemple dans la nature quand on a une maladie psychique ou une maladie, je ne sais pas, ou nous-mêmes, ben on a de la confusion, c'est qu'on mélange tout, quoi. Alors, nous restons là. Et alors, il y a une conséquence pour nous très importante. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre relation à la Sainte Trinité, Dieu reste Dieu et nous restons nous-mêmes. Même en étant divinisés par l'action de l'Esprit, le Seigneur nous respecte aujourd'hui et pour toujours. Notre nature humaine ne sera pas angélique. Elle ne sera pas animale. Elle restera humaine. Le moi que j'ai reçu de Dieu est un moi définitif, éternel. Ça, c'est quand même... Cette réflexion aboutit à un grand bonheur. Le deuxième aspect, est-ce que... On pourra discuter après, si vous voulez, cet après-midi, de ces aspects-là. Le deuxième aspect, c'est que ces natures humaines et divines sont sans changement. Dieu reste Dieu, et dans le Christ, nous-mêmes, bien que nous soyons transformés. Dans la transformation, nous restons des êtres nés de Dieu, mais dans une condition charnelle, pour le moment. De toute façon, dans une condition limitée. Parce qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Ça limite ce que nous sommes dans l'histoire. Dieu n'a pas de corps, c'est-à-dire qu'il est illimité. Il n'a pas. Les anges ont quand même une réalité. Un ange comme Gabriel n'est pas Raphaël. Hein. Donc il a une limitation de son être. Autrement, il s'épandrait partout. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est merveilleux parce qu'il est partout présent. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de membrane qu'il définit, quoi. Il est pur esprit. Éternel. Cela signifie donc que Dieu est resté Dieu et que nous-mêmes, dans cette transformation, notre désir d'union à Dieu ne connaîtra pas de fin. Dans sa transcendance, Dieu reste dans sa transcendance absolue. Alors va se poser, enfin, on en parlera demain, une question ici. Puisqu'il reste Dieu, est-ce que nous aurons quand même une capacité de pouvoir le voir dans sa transcendance absolue ? Le troisième aspect, c'est de voir que ces deux natures, et c'est important, sont sans division. Voilà. C'est pas, comment on pourrait dire, à moitié d'un côté, à moitié de l'autre. Elles sont entières, elles ne sont pas coupées, elles ne sont pas divisées. Voilà encore. Elles ne sont pas divisées en deux parties, mais c'est comme si elles étaient jointes. Mais comme on a dit, jointes sans mélange, sans confusion. Dans la personne même du Christ, elles sont là, toutes les deux. Elles se respectent mutuellement. Elles ne sont pas une moitié divine, une moitié humaine. Elles sont pleinement divines et pleinement humaines. Alors cela signifie, en ce qui nous concerne à nous, héritiers du Christ, bien cela signifie que notre condition d'homme sera toujours respectée par Dieu. Et en ce moment, il faut vivre notre faiblesse d'homme en même temps que la puissance divine. Les deux sont en nous, elles sont sans division. Dieu est entièrement en nous, tout en étant entièrement un homme avec toute sa faiblesse. Et Jésus est donc celui qui a partagé cette condition humaine. Il l'a emmené jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Alors ça, c'est tout le trajet du Seigneur Jésus dans ce monde, en s'humiliant, se dépouillant de sa gloire, ne retenant pas le rang qu'il l'a fait fils éternel du Père. Et alors, ça, notre communion, là, eucharistique, est impliquée dans là-dedans. C'est-à-dire que quand nous prenons l'Eucharistie, nous prenons un Christ total et en même temps, bien, éternel, fils de Dieu. D'une certaine façon, en découle le sens de la souffrance humaine, qui est le respect que Dieu, dans le Christ, fait, puisque le Christ souffre, il souffre dans sa nature humaine, et son autre nature divine est là. Alors la grande question qui se posera ici, c'est au moment surtout de la croix, ou qui s'est posée pour les miracles, est-ce que cette nature divine, qui est pleinement respectée, n'a quand même pas une action? Est-ce qu'elle n'a pas une action sur la nature humaine? Et alors, pour certains, elle est tellement puissante, la nature divine, par rapport à la nature humaine. La nature humaine, ça fait pas l'aise, c'est rien du tout par rapport à la nature divine. La nature divine qui crée le monde, qui est éternelle, et puis nous, pauvres gens de notre nature humaine. Alors on se dit que il y a ces deux natures, mais il y en a une qui est énorme, puis l'autre qui est rien comme ça, même si elles sont jointes l'une et l'autre. Et alors, la question, est-ce que donc cette nature humaine va complètement détruire la nature humaine? Et on voit bien maintenant que c'est une façon pour nous aussi de lire l'Évangile, de voir que de temps en temps, effectivement, il y a une invasion ou quelque chose, un effet de la nature divine qui vient dans le Christ à un moment donné, ou je ne sais pas, d'une façon toute simple, au moment où il va guérir la personne qui avait un flux de sang. Et il dit à un moment donné, là, une force est sortie de moi. On a l'impression qu'effectivement, une force qui venait en lui, mais qui n'était pas sa nature à lui, humaine, et qui agit à ce moment-là. C'est les miracles. Et puis, ça posera la question plus tard. Est-ce que au moment de la croix, la nature divine du Père qui voit son Fils souffrir, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une communication, parce qu'on voit toujours la communication du plus grand au plus petit, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une communication du petit vers le plus grand? C'est-à-dire le petit qui est représenté à ce moment-là par la nature humaine du Christ qui meurt en croix. Est-ce que ça ne vous provoque pas un éclair, un quelque chose qui vient toucher la nature divine et qui ferait que le Père lui-même souffrirait d'une certaine façon qui n'est pas la souffrance humaine, mais qui est l'écho, la réaction du Fils qui meurt sur la croix. Et on comprendrait que en faisant cette analyse des deux natures, que la nature humaine, tout en étant petite, peut avoir un écho vers le Père. Mais c'est important parce que ça fait penser aussi à notre vie de prière. Nous qui sommes très petits, mais quand on prie dans le Christ, est-ce que cette prière que l'on fait dans le Christ est remontée vers le Père? Et Jésus nous en a fait, d'une certaine façon, il en a fait la voie de communication, puisque c'est lui qui nous relie au Père, par l'Esprit. On voit là que donc la nature humaine n'est pas abandonnée, tout en étant petite, qu'elle est ouverte vers, et qu'elle le restera éternellement, puisque c'est d'une autre façon, beaucoup plus ouverte. Voilà. Une des, peut-être des conséquences de ce troisième aspect des choses. Je disais là que de temps en temps, un événement que j'ai vécu récemment avec une personne où cette nature, je vais passer cet homme avec toutes ses difficultés, toute sa souffrance, etc. Et puis, j'ai vu brusquement l'événement de la grâce se produire. Et cet homme, recevant la grâce, c'est comme s'il y avait une invasion de la puissance du Christ dans sa gloire, dans sa nature, enfin, de cette puissance divine qui réconcilie, qui fait aimer, qui, etc., l'envahir. Et il s'est mis à pleurer. Et il me dit, après, je l'ai revu, et il me dit un mot, une parole qui est merveilleuse. Maintenant, ce sera plus comme avant. Il s'est passé un passage, je veux dire, presque de la nature de cet événement de Dieu qui passe dans l'homme. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, tout ça. Maintenant, ces deux natures ne peuvent pas non plus être séparées.
Que devient la nature humaine du Christ?
Alors, la nature humaine du Christ, dans sa résurrection, est transformée par le Saint-Esprit. Et c'est la grande affaire, la sortie du tombeau. Le Christ est toujours, et restera toujours, le Verbe fait chair. Mais la chair à elle-même, et c'est pourquoi, enfin c'est tout ce que nous lisons dans Saint Paul, etc., que le grand mystère, c'est que quand Paul dit que le péché est entré dans notre chair, que nous sommes voués au péché par la chair, et que, oh, malheur à moi de porter un corps pris par le péché, etc., voilà. Et qui me délivrera de ce corps, cette revendication de Paul, se réalise dans le Christ, puisque le Christ ressuscité à une nouvelle condition charnelle, éternelle, et c'est celle-là que nous aurons demain. C'est-à-dire une humanité qui va rester, nous serons toujours créés hommes, mais avec une humanité, une chair qui est transfigurée, celle qui va venir mystérieusement, mais celle que nous mangeons tous les jours dans l'Eucharistie. Nous mangeons dans l'Eucharistie, non pas la réalité du Christ d'avant, mais la réalité du Christ de... C'est pourquoi, quand on regarde, on ne voit pas, bien sûr, dans l'hostie, la réalité nouvelle, mais elle est là. Et c'est cette réalité nouvelle que nous... Ce n'est pas une sainte scène. Nous ne communions pas la sainte scène, mais à l'Eucharistie. C'est tout à fait différent, la scène de l'Eucharistie. Alors... Et donc, je crois qu'on nous dit à peu près... Alors maintenant, peut-être pour nous... C'est l'heure, je pense. Mais je crois que... Qu'est-ce qu'on a dit exactement? Je m'en souviens
plus. Dans le quatrième aspect, ces deux natures ne peuvent être séparées.
Oui, elles ne sont pas séparées. Ça, c'est le troisième ou le quatrième?
Tu avais dit le quatrième juste avant de dire ça.
Non, je m'en souviens un peu, non, le quatrième.
Et que dans, après la résurrection, dans l'esprit, la nature.
La nature, elles sont. Elles ne sont pas séparées, elles sont chacune ce qu'elles sont, et en même temps, elles communiquent. Il y a une communication qu'on appelle la communication des idiomes. Idiome, c'est un mot qui veut dire spécifique. La communication des idiomes, ça veut dire que la communication de la nature humaine peut se communiquer à la nature divine, et que la nature humaine peut se communiquer à la nature humaine. La communication des idiomes, par lequel il y a dans notre être une capacité d'être divinisé. Voilà. Et c'est le résultat de toute notre vie chrétienne que de réaliser cette communication que fait la nature divine en nous. Ça s'appelle la grâce. Ça va s'appeler alors la grâce. Ça sera l'œuvre de l'Esprit qui va communiquer à notre ce qu'est le Christ Jésus ressuscité. Et c'est cela qu'il nous communique. Il ne communique pas une force comme ça n'importe quoi. Il nous communique la réalité du Christ ressuscité. Et quand on se nourrit, comme on vient de le dire, de l'Eucharistie, on réalise cette action de l'Esprit, puisqu'il a battu, il était sur les oblats pour réaliser cela, et nous communions donc à cela, à la nature divinisée. Nous avons donc la capacité dans le Christ, par le Saint-Esprit, de participer à sa propre nature divinisée, dont les effets sont déjà immédiats, puisque c'est les effets de la foi, de l'espérance, de la charité. C'est tout cela qui fait que quand on en ressort avec un organisme nouveau en nous, l'homme nouveau, alors ça c'est toute la vie spirituelle, et j'avais pensé aussi...
La
nature divine restera la nature divine, mais dans le Christ, nous sommes divinisés. Le mot divinisé, qui n'est pas toujours celui que nous utilisons dans nous, c'est plutôt sanctifié, le mot qui revient le plus souvent. Mais dans la théologie orientale, c'est être divinisé. Nous sommes devenus des divins, des dieux. Jésus disait, vous êtes des dieux.
Participons à sa nature divine.
Parce que nous participons pleinement. Alors, avec cette question que nous sommes toujours nous-mêmes. Nous ne sommes pas absorbés, nous ne sommes pas... Mais il n'y a pas de confusion.
On reste pécheurs.
On restera notre identité humaine, mais notre identité humaine va changer. La réalité de la façon de réaliser notre nature humaine va être complètement différente, puisqu'elle passe dans le Christ, et en passant dans le Christ, je crois que ça va être notre mort, hein, en fait. Hein, quand on va passer là, et qu'on va... Parce que c'est déjà fait, la mort est déjà faite. Le baptême en est l'expression. Nous sommes déjà morts dans le Christ, nous sommes passés dans le Christ déjà. Hein. Mais l'étape, et toute notre étape actuelle, c'est de réaliser tout ce qui nous a déjà été donné. Hein. Par la foi, l'espérance, la charité, nous réalisons tout ça, par toutes les vertus qui nous sont données. Mais il y a un grand nouveau qui nous attend. C'est la grande sortie de semaine pour entrer dans l'autre.
Pardon, j'ai pas...
C'est la sortie de ce monde pour entrer dans l'autre. Et alors ça, c'est la nouvelle grande transformation qui se fait. On abandonne. C'est merveilleux quand même, hein, parce que on abandonne ce corps.
On perd le péché, quoi.
Ben oui, on abandonne d'abord la réalité humaine, la réalité charnelle plutôt.
Oui, c'est ça, ce qui est
cher. La réalité charnelle, et puis, bon, ben on le laisse, on le voit bien. Hein. Et puis l'esprit est parti. Alors quand il va rentrer, quand il va passer de l'autre côté, ben, ceux qui ont vu, qui ont des visions, voient très bien qu'ils entrent dans la lumière. Quand on dit que le purgatoire existe, ça veut dire qu'on rentre dans des différentes demeures. Et alors là, nous rentrons dans la lumière. Nous rentrons dans le Christ, il va être là pour nous, pour nous accueillir, avec la Vierge Marie, avec etc., etc. Alors, ce ne sera pas complètement... On n'aura pas notre... La plénitude ou la totalité de ce que oui du corps, il faut attendre dit l'Église, le grand moment de la résurrection de tous les corps, donc le jugement dernier, quoi. Mais là, on est déjà entré, c'est déjà là, bon, c'est très mystérieux, mais on peut penser que déjà on a la plénitude déjà de ce qui nous attend, puisque nous sommes dans le Christ. On est dans le Christ. Je ne sais pas, faut pas quand même s'imaginer des choses, je ne sais pas, d'avoir peur de tout un tas de trucs, penser que, oh là...
C'est vrai.
Mais il ne faut pas, il ne faut pas. Au contraire, il faut vraiment vivre cette réalité incroyable, mais incroyable, d'être dans le Christ aujourd'hui, de se nourrir tout à l'heure encore de son Eucharistie, d'être en lui, et lui est en nous, etc.
Mais ça, c'est une grâce aussi qu'il peut nous donner. On ne l'accepte pas comme ça d'un coup.
Oui, ça c'est certain, c'est une grâce. C'est la grâce de l'esprit, ça c'est certain. Et on le voit bien par comparaison quand les gens n'ont pas ça. Ben, ils restent dans une humanité charnelle, terrestre, et condamnée, et pour laquelle ils pensent que même leur esprit... Est lié à la chair. Pour eux, il y a une continuité absolue. Il y a pas de différence. Ils ont pas l'impression d'être nés d'en haut. Ils sont nés de la terre, c'est tout. Hein. Puis ils meurent dans la terre. Et puis voilà, c'est fini. Quoi.
Non, mais avant la naissance de Jésus, comment réagissaient les gens, parce qu'ils n'avaient pas l'idée du Dieu fait homme.
Alors avant. C'est le mystère de l'histoire, hein, ça c'est pas facile, ce mystère de l'histoire. Et ce que nous disons simplement, c'est qu'à ce moment-là, Dieu avait toujours donné la capacité à l'homme d'avoir une vie morale, par sa conscience de faire le bien et le mal, et que ceux qui ne connaissaient pas, et même aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui obéissent à leur conscience droite, ceux-là seront sauvés. Puis après, ben, ils verront le complément qu'ils n'ont jamais vu sur la terre. Mais nous, on est dans une autre...
Et les prophètes qui voyaient comment Isaïe et tout ça...
Ben, alors, on parle donc de l'inspiration de l'esprit à l'époque, alors que ben, c'était des gens qui étaient inspirés, que le Seigneur inspirait, comme il inspire aujourd'hui d'autres, des gens, mais il les inspire aujourd'hui pour en fonction d'une mission. Jérémie, du sein de sa mère, est consacré en vue d'une mission. Et aujourd'hui encore, ben, en recevant peut-être pas dans le sein de notre mère une mission, ça c'est vraiment... Après, on entre dans un autre cas de mystère de nos vies, à chacun de nous. C'est qu'il y a dans notre être, dans ce que nous avons reçu de Dieu, il y a certainement une bonté qui a pris du chemin pour se réaliser, puis qui se réalisait pour vous dans le mariage, qui se réalisait pour moi dans la vie consacrée, etc. Quelle était... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est venu à un certain moment, ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà un don qui était au cœur de notre être et puis qui s'est développé? Et
il y a notre liberté. Il y a notre liberté.
Oui, ben oui.
Donc, c'est à un moment que nous avons choisi de répondre.
Voilà, il y a un moment, voilà, choisi. Mais alors, est-ce que...
Parce que tout être est comme ça. Et il est né de Dieu, donc ils ont tous cette possibilité-là. Mais pourquoi que...
Voilà. Nous sommes là, nous, en
grâce. Je pense que c'est la grâce, il y a quelque chose qui...
Ben, ce qu'on constate, c'est quand ils ne le font pas, c'est qu'il leur manque quelque chose.
Oui, c'est ça.
Et nous, ce qui ne fait, quand on le fait, nous, on le fait par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas dire autrement que c'est une question de l'Esprit. C'est quelque chose de l'Esprit. Maintenant, oui.
Avant la création, est-ce qu'on ne peut pas dire que en Dieu, il y avait déjà cette image humaine, puisqu'il nous a créé à son image. Son image n'a pas évolué. Donc, de toute éternité, il était ce qu'il est. Donc, cette image humaine, elle devait certainement préexister de toute éternité.
Tout à fait.
Alors,
elle était dans le Christ préexistant.
Elle était dans le Christ préexistant.
Donc,
on dit qu'on était dans la pensée de Dieu depuis le début.
C'est plus que la pensée de Dieu, c'est que nous sommes dans le Christ préexistant.
Voilà. Ouais.
Et c'est le Christ préexistant qui est donc l'image absolue, parfaite, la splendeur, comme dit Hébreu, au début des Hébreux, il est la splendeur de l'image du Père. Et alors, il est le premier de toute la création. Donc, dans l'éternité, on ne sait pas quand et comment, mais il est dans l'éternité, et c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui va être. Et en même temps, c'est un acte, on dit que toujours la Sainte Trinité agit en unité, mais ils agissent dans un ordre particulier. Le Père est toujours à l'origine, le Fils l'a réalisé, et l'Esprit en donne la puissance. Donc, dans l'éternité, comme tu dis, le Christ est préexistant, éternel, et il est en tant que Christ. Et c'est là où moi je ressens quelque chose d'indéfinissable. C'est qu'à ce moment-là, il est le Verbe déjà fait chair. Avant d'être... Alors on l'appelle asarkos, c'est-à-dire avant qu'il prenne la chair. Il est éternel. Il est celui qui est l'homme. Il est déjà, on va dire, autre et le même que la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est le Verbe qui, avant de prendre le chair, est déjà le Verbe en qui tout est réalisé, toute l'humanité est déjà, puisqu'il est déjà porteur de cette humanité, comme il est porteur du cosmos. Et alors, il est le premier créateur, il est la première née de toutes les créations. C'est lui qui donc est la plénitude déjà de tout ce qui est. Et après, envoyer le même envoyé par le Père. Il est celui en qui nous allons être nous-mêmes créés. Nous sommes créés lui-même dans lui, en lui. En lui qui était avant nous, avant que le ciel fût et la terre, il est. Mais il est notre humanité déjà.
D'ailleurs, il se définit Jésus comme le Fils de l'homme.
Alors là, il va se définir comme Fils de l'homme à un certain moment. Oui. On situe ça normalement au moment de sa réalité historique, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'il est. Et un théologien comme Bulgakov et d'autres certainement, mais disent qu'il y a une humanité éternelle en Dieu.
Oui, il y a déjà sa nature humaine avant d'avoir touché à la Vierge Marie.
Voilà, oui, aussi.
Mais alors,
et là, ça remonte encore plus haut.
Oui, de tout temps.
Oui, oui, oui. Ben, ça remonte dans l'éternité qui nous est inaccessible. Oui.
Avant la chute, Jésus n'a pas changé.
Non.
Mais il a été crucifié.
Oui.
Parce qu'il était déjà crucifié.
Alors, ça, c'est merveilleux que tu remontes à ça. Parce que c'est une parole de Pierre.
Ah bon?
Il y a une parole de Pierre, oui, de Saint Pierre.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Attends une minute.
Laisse une connexion.
C'est vrai, ça coupe d'un seul coup de jeu. Comment dire? Il est l'agneau immolé avant le commencement du monde.
Pierre a dit ça.
Oui. Il est l'agneau immolé avant. Attendez. Et alors cette parole a coulé beaucoup. Des paroles comme ça, ce n'est pas des paroles faciles à interpréter. Et donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Il a été immolé avant la création du monde.
Mais l'humain disparaîtra un jour.
Comment ?
Tout ce qui est humain disparaîtra un jour.
Non, jamais. Jamais.
À la fin du monde, non plus.
Jamais. Mais éternellement.
Mais l'agneau immolé avant la création du monde.
Comment ?
Il n'y a pas de fin du monde dans ce domaine. Il n'y a pas de fin du monde dans ce domaine.
Non, il n'y en a pas. Ta nature humaine. Elle restera toujours de nature humaine, mais glorieuse. Mais tu seras toujours toi-même.
Mais ça ne sera pas humain, alors. Ça sera nature. C'est le mot humain qui me...
Si. Et ce sera pas, tu ne seras pas angélique, tu ne seras pas animal, tu ne seras pas pierre, tu ne seras pas un minéraux. Tu seras ce que tu es. Tu as reçu une nature humaine telle qu'elle est. Avec une hypostase unique, et tu vis ta nature humaine, et tu ne changeras pas éternellement.
Et pourtant, cette nature humaine, elle est modifiée, puisque
elle sera modifiée.
Il n'y a plus ni ange, ni homme, ni femme, dit-il à un moment.
Oui, mais ça, c'est...
Il n'y a plus besoin d'être uni par...
Exactement. Il y a, comme tu dis, une modification, mais ça n'atteint pas l'essence.
Voilà.
Il y a toujours une distinction entre... l'essence, ce qui est essentiel, éternel, oui. et la façon de réaliser cette essence. Oui. Hein? Oui. Alors, la façon de réaliser notre nature, ta nature humaine, va changer. Mais toi, tu resteras ce que tu es.
Il faut faire là. Oui, je...
Mais l'agneau immolé avant la création...
Et moi, j'aurais voulu un nœud pour, je ne sais pas pourquoi, mais...
Alors, voilà. Alors,
c'est une question.
C'est très bien.
Sinon, il ne serait pas intervenu s'il n'y avait pas une forme de souffrance de Dieu.
Alors, il y a quelque chose de très, très mystérieux qui est analysé aussi. Ce n'est pas la souffrance humaine, parce qu'il faut une chair pour souffrir.
Mais
ils n'en ont pas. Mais toi, de temps en temps, tu souffres dans l'esprit.
Bien sûr.
Et la chute était prévue, alors.
Oui. Comme possibilité, certainement.
Comme possibilité, oui.
Mais même sans la chute, il est dit aussi.
Attends,
ça n'a pas fini.
Elle était prévue comme possibilité, mais elle n'était pas. comment je pourrais dire, oui, que ce n'était qu'une possibilité. Oui, et en fait, si elle a eu lieu, bon, ben, alors les pères d'Ilésis, c'est parce que Satan est venu dans l'enfance. Ils étaient des enfants, ils n'ont pas réfléchi suffisamment. Donc le Satan a très bien compris que c'était à ce moment-là qu'il fallait les avoir. Il ne les aurait pas eu plus tard. Voilà ce que disent un peu les pères. Mais de toute façon, effectivement, j'avais une possibilité. Est-ce que la liberté impliquait cette possibilité? C'est difficile à dire. En fait, il n'y aurait pas eu de possibilité de chuter s'il n'y avait pas eu déjà une première chute angélique, qui est le grand mystère.
Oui.
C'est pas notre chute qui est la grande affaire. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel pour qu'ensuite, pouf, tout ensuite soit déréglé.
Oui.
Par conséquent,
c'est pas la faute de la femme.
Bien sûr. Écoute, c'est très gentil de ta part. Tu vois, t'as de la chance d'avoir un beau mari.
On t'a soulagé la moitié de l'humanité.
Il te justifie à tous les moments, à tout moment. Voilà une belle réaction d'amour, d'amour conjugal. Ça, c'est très, très beau.
Alors, cette forme de possibilité là, qu'évoquait Jean-Pierre pour le premier homme, ça rejoint aussi cette possibilité pour Judas de ne pas chuter.
Ah oui. Alors là, moi, j'ai pas lu Maria Torta, mais il y a quelqu'un qui m'en a parlé,
oui.
sur l'action de Satan. Et la question de Satan, de Judas. Excusez-moi. Et elle montre, enfin, il paraît qu'elle a écrit, moi je n'ai pas le livre, je ne sais pas. Et la personne qui l'a lu, qui m'a dit longuement, et ça m'a fait tilt en moi quand même beaucoup, parce qu'elle dit que Maria Torta voit Judas comme un être assez grand, à la hauteur de lui. Hein.
Merci pour la comparaison.
Oh.
Bon, excusez-moi, je dois me retirer.
Non. Filiforme, grand comme ce grand, parce que bon, tu étais quand même grand par nous, eh bien, une stature comme ça, grande, et il dit qu'il était plus intelligent que les autres. Voilà ce que dit Maria Torta. Et qu'il avait très bien pigé, qu'il y avait une espèce de jalousie. Il voulait être le premier, parce qu'il connaissait mieux, il avait mieux pénétré le Seigneur Jésus. Il était un petit peu en concurrence avec Pierre, il n'était pas tout à fait d'accord, parce que bon, Pierre recevait... il s'était toujours... opposé, alors elle raconte qu'il s'était toujours opposé un peu à lui à cause de ça, quoi. Et qu'il avait une espèce d'orgueil, mais un orgueil. Et puis il avait ce besoin peut-être d'argent aussi, je ne sais pas trop quoi s'il en faisait. Voilà ce qu'elle dit. Mais moi, ça m'a fait beaucoup tilt de penser que, effectivement, c'est quelqu'un qui souffre de pas être le premier. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Je trouve que cette vision-là des choses qu'elle raconte, ça, à mon avis, ça peut expliquer quand même pas mal. Bon.
Est-ce qu'il n'y a pas des... Enfin, moi, je me demande toujours s'il n'y a pas des choses comme ça qui vont recommencer. Parce que s'il n'y a pas des choses comme ça, jalousie, des machins comme ça, qui ne vont pas recommencer.
Ah ben, normalement, le péché n'existe plus.
Oui, c'est ce qu'avait dit.
Ah ben, il n'existe plus, le péché.
Oui,
et ses conséquences. Les conséquences du péché, c'est la mort. C'est
la messe.
Si tu veux
faire
célébrer et avoir le temps.
Eh ben oui, j'y vais.
Bon, je continuerai après-midi, Jean-Claude.